Je viens vous rejoindre ce matin, comme vous en avez maintenant l'habitude. Et pour cette quatrième journée de Lectio Divina, c'est avec un témoin très particulier du Christ ressuscité, Saint Paul, que nous progressons dans l'accueil de la parole de Dieu. Nous recevons donc ce témoignage de celui qu'on appelle l'apôtre des nations, qui est ce grand serviteur de l'Évangile, signifiant à l'époque de Saint Paul la proclamation de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle du salut. Il ne s'agit pas encore de texte d'évangile, évidemment, mais du contenu de la première prédication chrétienne. Et c'est précisément ce témoignage de l'apôtre Saint Paul que nous allons recevoir encore ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais commencer la méditation de ce matin en reprenant quelques aspects de ce très grand texte de la première épître aux Corinthiens, de ce grand témoignage que saint Paul donne de l'évangile du Christ. C'est bien le thème qu'il utilise au début du chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme. Or, le cœur de l'évangile que Paul proclame, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, qui est comme un petit et premier résumé de la foi chrétienne. Ce mot kérigme veut dire proclamation. C'est donc ce que tous les chrétiens proclament. Et lorsque Paul ici nous donne cette version-là du kérigme, il ne nous la donne pas seulement comme s'il l'avait composé lui-même, mais bien comme une tradition qu'il a lui-même reçue. Lorsqu'on sait que la première épître aux Corinthiens fait partie des tout premiers textes du Nouveau Testament, bien avant que les évangiles et les actes des apôtres ne soient rédigés, et lorsque Paul lui-même transmet ce que d'abord il avait lui-même reçu, vous comprenez bien que nous sommes tout à fait à la source du témoignage apostolique, à la source de la première proclamation chrétienne. Eh bien, dans ce trésor que Paul nous transmet et dont il devient le témoin, et j'en parlerai tout à l'heure de la manière dont Paul, dans sa propre existence, est un témoin concret, précis du Christ ressuscité, eh bien, dans ce trésor donc qu'il transmet, il y a l'essentiel de la foi chrétienne. Ce kérigme est composé de au moins quatre éléments. Tout d'abord, le kérigme, c'est que notre foi repose sur une personne, la personne de Jésus-Christ, la personne du Christ. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, rappelait Benoît XVI, ce n'est pas d'abord une décision éthique ou une grande idée, mais c'est la rencontre avec un événement et avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. Or, c'est exactement ce qui est proclamé par le kérigme. Le kérigme souligne l'importance de la rencontre avec la personne de Jésus et avec son mystère pascal. Autrement dit, si je reprends le déroulement des principales étapes de ce kérigme, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans nos credos, d'abord c'est la personne de Jésus, et puis ensuite c'est son mystère pascal, le Christ, premièrement, deuxièmement, celui qui est mort pour nos péchés selon les Écritures et qui a été mis au tombeau, troisièmement, celui qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et quatrièmement, les témoins qui ont vu Jésus ressuscité et qui vont emporter la bonne nouvelle à tous. Il est apparu à Képhas, puis aux douze, et jusqu'à moi, dit Paul. Notre foi repose sur ces quatre éléments du kérigme des premiers chrétiens. La personne de Jésus, sa mort, sa résurrection et le témoignage que nous avons à emporter ou le fait que Jésus a voulu que nous soyons ses témoins. Vous remarquez d'ailleurs au passage que la liste des témoins du ressuscité ici dans la première aux Corinthiens vient compléter ce que nous savons par les évangiles et nous laisse percevoir qu'il s'est passé sûrement beaucoup plus de choses autour du Christ ressuscité que ce qu'on choisit d'en garder les évangiles. Et nous retrouvons dans le développement de ce kérigme quelques éléments que nous avons déjà pu recevoir depuis le début de notre retraite de Lectio Divina, quelques points importants. Tout d'abord, cette expérience de la rencontre avec la personne de Jésus, notamment avec la personne de Jésus ressuscité. Ensuite, l'importance qu'il y a à prendre l'ensemble de l'événement de la Pâque du Christ. Pour être disciple du ressuscité, il faut aussi être disciple du crucifié. Celui que nous proclamons, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Et enfin, l'importance du témoignage de cette mission que le Seigneur a voulu confier à son Église et à chaque disciple en particulier. Paul en est un exemple, il n'est pas le seul. Lui-même d'ailleurs s'inscrit dans cette tradition, lui-même transmet ce qu'il a déjà reçu. Mais avec saint Paul, nous sommes devant la situation d'une personne qui est emblématique ou qui devient emblématique de tous ces éléments depuis l'attachement à la personne de Jésus mort et ressuscité jusqu'au témoignage que nous avons à emporter. Il nous faut donc recevoir ce témoignage que saint Paul nous donne. Nous l'avons déjà réentendu ce matin dans la première épître aux Corinthiens, ce chapitre 15, où Paul lui-même s'implique dans cette mission de témoignage, puisqu'il rappelle que le Seigneur ressuscité, Jésus ressuscité, est apparu à moi aussi, écrit-il, comme à l'avorton. Et il y a quelque chose de très fort et qu'il faut retenir avec cette force-là dans ce témoignage de saint Paul et dans ces formules-là. Saint Paul n'aurait pas mérité par lui-même d'être ce qu'il est devenu. Tout ce qu'il est devenu, cet apôtre, ce témoin, il ne le doit qu'à la grâce de Dieu et certainement pas à ce qu'il peut présenter de son propre parcours. Alors évidemment, derrière cela, nous connaissons le parcours de saint Paul, son histoire, et ce n'est pas pour rien si l'un des plus grands textes sur saint Paul est le récit de sa conversion, du moment où de persécuteur qu'il était, et comme il le dira lui-même, de persécuteur acharné qu'il était, il va devenir non seulement le disciple, mais le prédicateur passionné, et même le témoin qui ira jusqu'à souffrir pour le nom du Christ et pour l'annonce de son évangile, et jusqu'à donner sa vie pour eux. En réalité, si le témoignage que saint Paul donne de son propre parcours a tant d'importance au cœur du Nouveau Testament, puisque saint Paul est un des personnages les plus présents dans le Nouveau Testament, une bonne partie des Actes des Apôtres, et puis l'ensemble des lettres qu'il a rédigées, si donc saint Paul est cette figure tellement mise en avant et en valeur dans les premiers temps apostoliques, ce n'est pas simplement pour nous renseigner sur une figure particulière, avec des qualités exceptionnelles, ce qui est probablement le cas d'ailleurs pour saint Paul, mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est que dans le parcours de saint Paul, il y a quelque chose du parcours de tout croyant. Ce qui est éclatant dans le parcours de saint Paul peut nous renvoyer à notre propre parcours, à notre propre histoire avec le Christ et à notre propre conversion nécessaire, au fait qu'à l'origine de notre vie chrétienne, de la mission qui est la nôtre, il n'y a pas d'abord ce que nous avons pu apporter, mais il y a d'abord la grâce, le don absolument gratuit de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous sommes aujourd'hui disciples du Christ, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce qui nous vient de la mort et de la résurrection du Christ. Autrement dit, le baptême qui fait de nous des croyants et des disciples constitue comme l'actualisation du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Aussi, si nous sommes invités à devenir témoins du Christ ressuscité, ce n'est pas simplement en récitant un message appris par cœur pour le restituer tel quel, mais c'est bien nous-mêmes, notre propre personne, qui devenons ces témoins. Parce que si le Christ n'était pas mort et ressuscité pour nous, si le Christ n'avait pas donné sa vie pour nous et ne nous avait pas engendré à la vie nouvelle dans sa résurrection, eh bien nous ne pourrions en aucun cas être ses disciples, ni vivre de la vie chrétienne, cette vie d'enfant du Père. Nous sommes par nous-mêmes pécheurs, comme le dit ailleurs saint Paul, par nous-mêmes nous ne sommes que voués à disparaître à la colère, parce que par nous-mêmes nous ne sommes que pécheurs. Et ce qui nous engendre à la vie nouvelle, c'est bien le mystère pascal du Christ. Paul en est ce témoin, mais il nous renvoie à cette réalité au cœur de chacune de nos identités chrétiennes. La grandeur de saint Paul et ce qui fait son témoignage, ce n'est pas en réalité sa propre grandeur personnelle, mais c'est la grandeur même en lui de la grâce du Christ, cette force, cette vie nouvelle qui était capable, même en lui, de vaincre le pécheur qu'il était. Tout est comme résumé dans le très beau témoignage qu'il donne au début de la première épître à Timothée, un des textes de la lecture de ce jour, où tout est dit. D'abord, cette action de grâce, puisqu'à la base du témoignage que Paul donne du Christ mort et ressuscité, il y a cette attitude si fondamentale chez lui d'action de grâce. Voilà ce qu'il écrit donc. « Je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus notre Seigneur. » Lui qui m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service, alors que moi, naguère, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étranger à la foi, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier, et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi le premier, Jésus manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ce témoignage de saint Paul devrait et doit être le témoignage de chacun de nous. C'est ce témoignage-là que nous avons apporté du Christ ressuscité, du Christ mort et ressuscité. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier, et non pas dont vous êtes vous les premiers, mais dont je suis moi le premier. Et donc s'il m'a été fait miséricorde à moi, c'est pour que, en vous aussi, il puisse répandre sa miséricorde. Si j'avais donc à résumer ce témoignage de saint Paul, et par là évidemment le témoignage que nous avons nous-mêmes apporté, premièrement, c'est d'abord une action de grâce, et j'y reviendrai cet après-midi. Deuxièmement, c'est un témoignage qui passe par ce que le Christ a fait pour moi, ce qu'il a réalisé en moi, cette conversion qu'il a permis que je vive, et qui exprime la gratuité totale de son amour. Saint Paul n'a rien présenté qui pouvait lui permettre d'être converti et de devenir l'apôtre des nations. C'est au contraire lorsque Paul était persécuteur et lorsqu'il était allé pour rechercher les chrétiens à Damas, c'est, j'allais dire, presque au pire moment que Jésus lui-même fait éclater sa grâce à lui, la grâce du Christ, mort et ressuscité, capable de créer chez le persécuteur un être nouveau qui annonce maintenant la foi qu'alors il voulait détruire, comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Galates. Demandons à saint Paul, si vous le voulez bien, de nous aider aujourd'hui en accueillant la parole du Seigneur à faire mémoire de notre propre expérience du Seigneur et de sa grâce à l'œuvre dans nos existences pour que ce soit toute notre personne et tout notre parcours que nous puissions présenter en témoignage à ceux vers qui Dieu le Père veut nous envoyer témoigner de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Comme à chaque conférence, je veux maintenant prendre un peu de temps pour développer un aspect de la pédagogie de la Lectio Divina. Et comme j'ai commencé à le faire hier, aujourd'hui, je voudrais surtout inscrire la démarche qui est la nôtre dans la tradition de l'Église. Si j'ai évoqué les papes de ces dernières décennies et le rôle important, essentiel qu'ils ont joué dans ce renouveau de la Lectio Divina et cette redécouverte de l'importance de la prière de la parole de Dieu, ces papes renouent en réalité avec la plus grande et la plus ancienne tradition chrétienne depuis les premiers siècles, lorsque la Lectio Divina était une pratique qui n'était pas réservée du tout à la vie monastique, mais qui était bien le trésor de la prière de tous les chrétiens. Le premier témoin de cette tradition est un père de l'Église, Origène, qui, au IIIe siècle, dans une lettre adressée à Grégoire le Thaumaturge, parle de cette prière de la parole de Dieu. Il invite son élève à ne pas se contenter de lire des commentaires, mais à remonter à la source elle-même de la révélation en s'attachant à la lecture des divines écritures. Il écrit ceci: « Consacre-toi à la lectio des divines écritures, applique-toi à cela avec persévérance, engage-toi dans la lectio avec l'intention de croire et de plaire à Dieu. Si durant la lectio tu te trouves devant une porte close, frappe et le gardien t'ouvrira, lui dont Jésus a dit, le gardien la lui ouvrira. En t'appliquant ainsi à la lectio divina, cherche avec loyauté et avec une confiance inébranlable en Dieu le sens des écritures divines qui est largement contenu dans celle-ci. Tu ne dois cependant pas te contenter de frapper et de chercher. Pour comprendre les choses de Dieu, tu as absolument besoin de l'oratio. Précisément, pour nous exhorter à celle-ci, le Sauveur nous a non seulement dit « Cherchez et vous trouverez » et « Frappez et on vous ouvrira », mais il a ajouté « Demandez et vous recevrez ». Durant les 6 premiers siècles de l'histoire de l'Église, les témoins de cette importance de la prière de la Lectio Divina pour l'ensemble du peuple chrétien sont nombreux. J'en citerai simplement 2 d'entre eux, dont je vous donne quelques enseignements dans les textes complémentaires que je vous distribue chaque jour. Je citerai donc en Orient saint Jean Chrysostome et puis en Occident, plus près de nous, au début du VIe siècle, saint Césaire d'Arles. Ces pères de l'Église ont eu le grand mérite de souligner en particulier l'importance qu'il y avait pour l'ensemble du peuple chrétien à faire de l'accueil, de la lecture et de la prière de la parole de Dieu la nourriture quotidienne, non pas seulement des prêtres ou des moines, mais également de tout baptisé, et que les familles elles-mêmes puissent prendre l'habitude d'une fréquentation assidue et persévérante de la parole de Dieu dans leur propre maison. Cela fait partie du trésor de notre tradition de l'Église, et c'est ce trésor dont nous pouvons vivre aujourd'hui et pour lequel nous pouvons rendre grâce. Je vous souhaite une belle journée de Lectio Divina.